Merci les musiciens pour ces beaux chants, que Dieu vous bénisse. Nous prions le Seigneur. Tu m'entends bien, Igor? Tu m'entends? Ça va? Comme ça, c'est mieux? Peut-être on peut faire un peu plus fort. C'est mieux comme ça? C'est le paradis, c'est bien. Jésus, nous te remercions pour ce beau dimanche ensoleillé. Merci Seigneur Jésus pour cette belle journée et ce culte d'adoration que nous venons t'offrir. Nous t'aimons et nous voulons apprendre encore davantage de toi. Et je te bénis, Jésus, pour tous ceux qui prennent du temps pour s'occuper de leur âme, de leur esprit, de leur corps aussi, mais tout cela dans l'ordre établi par toi. Merci, Jésus, de nous donner ta bénédiction aujourd'hui, alors que nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Merci, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. On fait un petit coucou à notre frère Robert qui est en Afrique. J'espère que tout va bien pour lui là-bas. Il m'a téléphoné. Il est victorieux. Amen. Au nom de Jésus, il est victorieux. Gloire à Dieu. On salue aussi Philippe et Marie-Claire qui m'ont fait l'immense joie et la surprise de faire tous ces centaines de kilomètres pour venir à mon anniversaire. Ça, c'est des frères, mais c'est aussi des amis. Hein. Quelque chose, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Merci aussi à tous ceux qui m'ont écrit des SMS, des MMSS, des BKZ, des tout ce que vous voulez, des WatchPicks, des mails, des WhatsApp, des je ne sais pas quoi, enfin, pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et je vous dis vraiment, en vérité, j'ai vraiment eu un très, très bel anniversaire. Vraiment très, très beau. Et je rends gloire à Dieu pour tout ça. C'était magnifique. Vraiment magnifique. Ceux qui sont à la communauté savent, je ne veux pas raconter tout parce qu'il y a des choses qui ne concernent que nous, mais c'était très très beau et je remercie Dieu. Nous allons nous lever et lire Matthieu chapitre 8 verset 18. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi, ou un scribe, si vous voulez, un scribe, lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Il faut noter que Jésus n'a pas dit qu'il n'acceptait pas que cet homme le suive. Il n'a pas dit ça. Mais ce que Jésus dit là mérite vraiment d'être étudié. Et j'avoue que, au bout de combien d'années de conversion? Je me suis converti en 68, ça fait des années. Hein, je n'avais jamais compris cela comme ça. Et là, je pense que ça va vous aider aussi, mes frères et sœurs. Bon, Jésus n'était pas en train de se plaindre. C'est ce que couramment on a tendance à penser, mais ça c'est un vieux reste de la religion qui nous fait croire que Jésus était pauvre. Le pauvre Jésus, il n'avait même pas un endroit où poser sa tête, le pauvre Jésus. C'est pas vrai! Quand on lit la Bible, on voit qu'il était bien reçu partout, à part chez les religieux, et puis même encore, des fois, il était très bien reçu par les religieux. Enfin bon, il était bien reçu partout. C'est normal, quand on fait des miracles, on a le gîte assuré partout, hein, ça je vous assure. Hein. Moi je peux aller vivre le reste de ma vie, je sais pas, 2-3 ans, non, j'espère plus, un peu plus quand même. 10-15 ans, hein. J'ai 66 ans, on verra bien ce que Dieu me permet de faire. Mais je peux vous assurer que si je vais en Afrique, je peux rester le reste de ma vie à dormir et à manger bien confortablement partout, sans me soucier du boire et du manger, parce que tout le monde veut que j'aille manger chez eux. Et voilà, quelqu'un qui vit la vie de Jésus sait ce que Jésus vivait lui-même. Il n'était pas en train de se plaindre. « J'ai pas d'endroit pour dormir. J'ai pas d'endroit pour prendre de repos. » C'est une mauvaise compréhension. Quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que c'est pas vrai. Ce que Jésus a discerné en voyant ce scribe, ce docteur de la loi, c'est que ce scribe était trop habité par des pensées, des sentiments, des désirs qui l'empêchaient de recevoir la parole divine et de la mettre en pratique. Vous commencez à comprendre? Ce scribe assurait à Jésus, je te suivrai partout. Et il était sans doute sincère. Mais il ne connaissait pas vraiment qui était Jésus. Je me souviens quand Michou et moi, nous avons commencé à fonder la communauté en 77, il y avait plein de gens autour de nous. Je ne vais pas donner des noms, mais c'était des gens qui étaient très sincères. Ils priaient, ils chantaient des cantiques, ils me suivaient dans les réunions que je faisais à gauche, à droite. On était invités par des pasteurs qui voulaient que je les remplace quand ils étaient en tournée ou quand ils étaient malades ou que si que ça. Et à chaque fois, il y avait des conversions, il y avait des guérisons. Ils aimaient ça, hein? Ils chantaient, ils venaient avec la guitare, ils chantaient. On priait pour les malades, il y avait des guérisons, ils étaient réjouis devant les miracles, les conversions. Il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, c'était formidable. Et puis, il y avait aussi les bonnes soirées autour de la table. Hein, avec Jésus, c'était pareil. Ils passaient des excellents moments, tout ça, c'était très festif. On voyait plein de gens se convertir. Mais ils sont où aujourd'hui, tous ces gueuleux? En Suisse, on dit des gueuleux. Ils sont où aujourd'hui? Ben, vous savez, il y en avait des dizaines. Hein. Michou se rappelle, et puis les vieux aussi. Hein, Dominique, tu te rappelles, toi? Qui c'est qui est vieux encore au milieu de nous qui se rappelle? Rachel, tu te rappelles? Tu pourrais même faire la liste des noms, hein, toi. On se rappelle bien de tout le monde. Hein. Il y avait des petits, des grands, des gros, des barbus, des à cheveux longs, des moustaches, des barbes. Enfin, il y avait de tout. Hein. Des anciens drogués, des anciennes prostituées, des anciens tout ce que vous voulez. Jésus s'est servi de l'image de tanière et de nid. Les tanières et les nids sont les demeures des animaux, oui ou non? Ce que Jésus a voulu dire à cet homme, c'est qu'il ne voyait pas dans cet homme, dans ce scribe, un lieu convenable pour que lui-même, Jésus, puisse y habiter. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête en toi. C'est ça qu'il voulait lui dire. En toi, il y a des demeures pour les renards rusés. En toi, il y a des demeures pour des oiseaux piailleurs et des oiseaux charognards comme des vautours. En toi, il y a des demeures pour des cochons, porcheries et compagnie. Mais il n'y a pas de place pour moi en toi. Je ne vois pas en toi un véritable accueil. Mais est-ce que cet homme l'a compris? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, Jésus a parlé de façon à ne pas être vraiment très compris, parce qu'il était poli, parce qu'il avait de l'éducation. Sa maman Marie et son papa adoptif, Joseph, l'avaient bien éduqué. Hein? C'était autre chose qu'aujourd'hui, l'éducation. Et il lui a parlé de façon à ce qu'il ne comprenne pas, parce que ça aurait été trop vexant. Imaginez que je dise à quelqu'un qui se présente au portail, « Non, non, je ne t'accepte pas dans ma communauté parce que tu es un repère de renards, de vautours et de cochons. » Il y en a plein hein, qui sont venus ici, mais des véritables cochons. Puis alors des cochonnes. Oh, des cochonnes! Même il y en a, ils se vantaient. Hein, sous forme de confession de péché, ils jouissaient de me raconter les saloperies qu'ils faisaient, des cochons et des cochons. Ça ne se dit pas quand on a une certaine éducation. Combien de personnes se croient capables sincèrement de suivre Jésus, ou de suivre Paul, ou de suivre Pierre? Vous avez bien vu, il y en a qui ont abandonné, Paul aussi, hein, non? En fait, tous, sauf deux ou trois. C'est vrai ou pas?
C'est vrai.
Ou Osborne, ou d'autres envoyés de Dieu. Osborne était abandonné par combien? Regardez les vieux journaux d'Osborne, les vieux Face Digest, les tout petits qui mesuraient à peu près 15 cm de haut. Vous allez voir, il y avait deux jumeaux qui étaient là, au service d'Osborne. Et puis, en fait, c'était des escrocs, ils l'ont ruiné. Enfin, bon, des horreurs. Et voilà. C'était comme ça. Merveilleux, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas dignes d'être au service d'un tel homme de Dieu. Alors que, sans le savoir, beaucoup de gens veulent suivre Jésus ou suivre des hommes de Dieu, mais sans le savoir, peut-être, ou en le sachant, je ne sais pas, ils abritent en eux toutes sortes de bestioles, toutes sortes d'animaux. Et ces animaux, ils ont des besoins autres que ce que Jésus et ses envoyés ont à leur donner Jésus a des choses à vous donner, j'ai des choses à vous donner. Mais les bestioles qui sont en vous n'en ont pas besoin. Au bout d'un moment, ils vont se révolter. Si vous ne faites pas le nettoyage en vous, si vous abritez toujours une porcherie avec un cochon bien caché là-dedans, c'est pourquoi, malgré la présence de Jésus en personne, ou de vrais serviteurs de Dieu confirmés par des miracles, ou des prophéties qui s'accomplissent, parce qu'il y a des prophéties qui ne s'accomplissent pas, et puis il y a des prophéties qui s'accomplissent, c'est là qu'on voit si c'est un véritable serviteur de Dieu ou pas. Eh bien, même en présence de Jésus en personne ou de véritables serviteurs de Dieu, le monde de l'esprit reste fermé à ces gens-là. Et il arrive un moment où un oiseau, tel un paon, c'est ce que c'est qu'un paon, le paon, il a besoin de se faire voir. Le paon, c'est un animal qui symbolise l'orgueil. Voilà, j'en sais assez maintenant, ça suffit. Je veux voler tout seul. Je veux qu'on me voie, moi. J'ai plus besoin d'être gavé par tes enseignements maintenant. Je suis en direct avec le Saint-Esprit. Je veux mon auditoire de grenouilles qui croient, qui croient, qui croient en moi. Vous voyez? Pour cette sorte de personne, il vaut mieux se tenir éloigné de Jésus. Pour cette sorte de personne, c'est bien d'avoir une religion. Pour cette sorte de personne, c'est bien d'avoir des réunions, des moments de priotière, pardon, de prière. Hein, vous savez, Seigneur notre Dieu, notre Père, tendre Dieu, notre Seigneur, ô Père éternel, sur ton trône élevé, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te bénir, tu es grand, tu es tout puissant. Et Dieu est dans son trône, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Bien sûr, je sais que je suis grand, je sais que je suis tout puissant, qu'est-ce qu'il vient me raconter là? Et il répète, et il répète. Ils ont besoin de ça, c'est bien pour eux, mais c'est pas bien, pour eux, c'est pas bien d'avoir une vie vraiment consacrée à suivre le maître ou l'envoyé du maître. Parce qu'en voulant marcher sur un chemin qui n'est pas fait pour eux, ces gens-là se trouvent prisonniers un jour, ils se trouvent pris un jour ou l'autre dans des pires contradictions intérieures et ils finissent schizo ou alors ils finissent bipolaires ou quelque chose dans ce genre-là. Enfin, il y a une scission qui se produit en eux qui fait qu'ils sont, n'est-ce pas, bizarres. Et ils ne comprennent pas pourquoi rien ne se passe conformément à ce qu'elles attendaient. Au début, oui, ça marche bien, puis après, oh. Alors ils se sentent persécutés, n'est-ce pas? Et c'est non seulement elles qui vont souffrir, mais elles font souffrir les autres, et puis elles gênent le travail de celui ou de celle auquel il prétendait s'instruire, auprès duquel il prétendait s'instruire. Les religions ont fait un sale boulot au sujet de la réputation de Jésus. Ils se prétendent envoyés de Dieu, mais ils font une réputation à Jésus, mais qui est détestable. Et ils font la même chose au sujet des envoyés de Dieu. Il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, William Branham. Mais vous avez des milliers de branhamistes qui font un sale boulot et qui salissent sa mémoire et qui empêchent les braves gens de venir connaître ce que ce prophète merveilleux a dit. Parce que eux, ils salissent tout. Maintenant, je ne dis pas que Branham était parfait. Bien sûr qu'il n'était pas parfait. Mais il avait des choses tellement extraordinaires à dire, mais plus personne ne veut savoir. Parce que ceux qui se réclament de son nom ont sali, ont abîmé son ministère. Alors sachez-le, contrairement à ce que les gens croient, un véritable maître, un enseignant, un berger, ne tient pas à être entouré d'une grande foule de gens. Jésus avait des grandes foules, mais il avait peu d'amis. Moi aussi j'ai des grandes foules, ceux qui sont venus avec moi en Afrique le savent. J'ai des grandes foules, mais j'ai peu d'amis, hein. Très peu d'amis. Un véritable envoyé de Dieu, il sait que son message n'est pas pour tous. Il le sait. Ce qu'il souhaite, c'est que ceux qui l'approchent, ces foules, reçoivent au moins quelques vérités qui les aideront à vivre un peu mieux. Et puis, alors, immédiatement après ce scribe, voilà qu'il y a une autre personne qui arrive, un disciple de Jésus, là, du coup. Alors, on va lire, c'est dans Matthieu 8, 21, 22. Ah, c'est... Un autre, parmi les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Pensez-y. C'est monstrueux ce que Jésus dit là à ce garçon. Lui qui avait dit aux scribes et aux pharisiens de respecter la loi de Moïse qui dit « Honore ton père et ta mère », il dit à ce garçon, comment est-ce qu'il peut conseiller ce garçon en lui disant « Laisse le cadavre de ton père ?» Non. Jésus n'a pas, c'était pas ça qu'il voulait dire, il voulait dire autre chose. Mais quoi ? Il avait autre chose à dire, il pensait à d'autres morts. Parce que bien que vivants, les gens portent en eux quelque chose qui est mort et qui les entraîne vers la mort. Tous ces nids, ces tanières remplies de bestioles, cette nature inférieure, nous l'avons tous encore, nous sommes nés de nouveau, mais si nous ne la maintenons pas dans la mort, c'est elle qui va nous avoir, hein? Cette nature inférieure, c'est un mort contre un bal. Et les manifestations de notre nature inférieure sont à classer parmi les morts. On doit l'enterrer et la maintenir dans la tombe, cette nature-là, au début. Ceux qui cherchent à satisfaire les caprices de leur nature inférieure, de la mort qui est en eux, vont finir par mourir réellement, c'est-à-dire d'être séparés de la vie, c'est-à-dire d'être séparés de Dieu. Mes frères et sœurs, les pensées, les sentiments et les actes qui ne sont pas imprégnés de la vie de Jésus-Christ conduisent les gens à la mort. Alors en apparence, ces gens ont l'air vivants. Vous vous rappelez de ce toy qui était venu ici et qui se tenait à peu près à l'endroit où j'étais et puis qui nous avait insulté, qui avait dit que nous étions des cadavres parce qu'on ne disait pas Amen, Alléluia, tous les trois mots qu'il disait. Parce que dans sa religion, si on ne dit pas Amen, Alléluia, Amen, 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 eh bien on est mort. Il nous avait traité de cadavres. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez de lui? Moi je me rappelle même de son nom, je ne vais pas vous le dire. Parce que bon, vous le savez, mais je ne vais pas le dire pour ceux qui nous écoutent. C'est un plombier, bien. C'est un beau métier. Il aurait mieux fait de rester plombier, hein. D'ailleurs, même plombier, c'était pas du beau boulot qu'il a fait, parce qu'il y a qu'à voir ce que ça a donné. C'est effrayant. Enfin bon, voilà. Alors, ils paraissent vivants ces gens parce qu'ils sont là, ils s'activent dans des réunions. Alléluia! Ils font des baptêmes. Alléluia! Ils rallongent une jambe. Alléluia! Bon. Mais ils conduisent les gens à la mort parce que tout ce qui n'est pas imprégné de la vie de l'Esprit Saint, ça conduit les gens à la mort. Alors en apparence, ils ont l'air vivants. Toute la journée, ils s'activent dans le monde des vivants. Mais cette vie, c'est une marche vers la mort. Dans leur tête, dans leur cœur, combien de gens passent leur temps avec des morts? Ils s'occupent de... Bonjour madame, vous désirez? Ah, une belle carte postale. Ah, un taille-crayon. Ah, 1, 2. Ils s'occupent, n'est-ce pas, de ces morts. Et puis, ils sont... Mais pas pour le sujet de Jésus, non. Oui, de temps en temps. Dieu vous bénisse. Il s'occupe d'eux, il les accompagne. Et Jésus, tout de suite après, il dit à cet homme, « Toi, suis-moi. » Pourquoi ? Pour être avec les vivants. Car c'est du côté de Jésus qu'est la vie véritable. Vous voyez, beaucoup de chrétiens nous reprochent de nous occuper du baptême à la place des morts, qu'on trouve dans 1 Corinthiens 15, 29, à cause de 1 Pierre 4, 6, etc., etc. Ils n'ont pas compris que c'est de la vie dont nous nous occupons, alors que ce sont eux qui s'occupent des morts. Beaucoup de ceux qui n'écoutent pas l'évangile rétabli et qui le rejettent et qui le méprisent sont des vivants qui sont morts et qui s'occupent des morts. Ils s'occupent d'autres morts qui ne portent aucun fruit, qui cherchent sans jamais trouver. Vous connaissez ces gens à l'esprit agité qui cherchent sans jamais trouver? On en a qui ont défilé ici. Mon Dieu, qu'on en a qui ont défilé ici. Qui errent comme des âmes errantes, inutiles, en tant les lieux de culte sont là. Vous savez comment les pasteurs les appellent? Les fantômes. C'est vrai, ils les appellent les fantômes. Allez vers n'importe quel pasteur, assemblée de Dieu, et vous dites, qu'est-ce que vous pensez des gens qui viennent de temps en temps à l'église? C'est des fantômes, ils vont vous dire. Qui prennent jamais part à l'œuvre de Dieu en faisant ce qu'ils doivent faire. Ils s'occupent de choses futiles, sans importance, et ils s'excitent parce que, voilà, bon, de temps en temps, il se passe quelque chose quand même, parce que Dieu est grand, Dieu est compatissant. Nous, nous nous occupons des morts qui n'ont pas cessé d'être vivants, parce que nous nous occupons des élus, de ceux qui ont été de leur vivant sur terre, des élus de Dieu qui n'ont jamais eu le privilège d'être mis en contact avec l'évangile réel de Jésus-Christ, qui sont morts et qui entendent l'évangile prêché dans le séjour des morts et qui peuvent en sortir si nous accomplissons à leur place ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le baptême. Parce que pour être sauvé, il faut croire, eux ils peuvent croire parce qu'ils entendent l'évangile prêché et il faut être baptisé. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc on s'occupe de vivants, on ne s'occupe pas de morts. Les élus ne meurent jamais. Voyez-vous ce que Jésus dit là? C'est que pour le suivre, lui, il faut d'abord se concentrer sur ce qui est essentiel. Or les gens en général cherchent premièrement leur nourriture, la facilité, de quoi payer leur loyer, leur transport, leurs vêtements. Ils s'endettent grossièrement pour tout ça et ils se justifient en disant que l'existence au quotidien, leurs obligations, leur famille, le prix des transports qui augmente sans cesse, le temps à passer dans les transports. Moi je suis désolé, notre frère Dominique a passé combien d'heures dans les transports? Eh ben, c'est grâce à ça qu'il a pu emmener notre sœur Michel. Amen. C'est pas vrai notre sœur Michel? Hein? On vous connaîtrait pas, sinon on connaîtrait pas votre fille, on connaîtrait pas votre petit-fils, on connaîtrait, hein? Bien sûr. Ah, Dominique dans le transport, il faisait pas rien. Et puis il a pas emprunté 90 000 euros pour prendre son train. Et dans sa société, et dans ma société, tu comprends, et tout, ça me contraint à des activités dans lesquelles ce vrai l'esprit divin n'a pas grand chose à dire. Bonjour madame, au revoir madame, au plaisir. Et puis que font-ils de leur temps libre? Parce que ça, on pourrait dire, ben alors, dans leur temps libre. Quelles sont leurs occupations? Oh, ils font sans doute rien de répréhensible. On n'en sait rien, mais je pense quand même qu'ils ne font pas des choses répréhensibles. Mais au lieu de construire en eux-mêmes quelque chose de solide et d'impérissable, ils perdent leur temps dans des futilités. Le foot, les jeux. Game Boy, Game Girl, Game Chum, Chouf, Torture, Plif, Pouf, Pouf, Casse, les courses à pied, etc. Tout ce que, voilà. Et ils prétendent connaître Jésus-Christ, le Créateur du ciel et de la terre, qui revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Non, mais de quoi? Mais de qui on se moque, là? De qui on se moque? En tout cas, ne vous foutez pas de moi, ça marche pas. Je ne prends pas vos foutaises au sérieux. Je ne vous prends pas au sérieux du tout. Savez-vous ce qu'ils font? Ils sont en train de s'enterrer eux-mêmes, morts qu'ils sont, ils s'enterrent eux-mêmes. Tout ce qui n'est pas essentiel, c'est cela ce que Jésus appelle les morts. Je vais être presque grossier. Il appelle ça les morts, on pourrait dire les scories. Vous savez, l'or éprouvé, ben, il y a des scories. On les jette après les scories. Hein. les épluchures, oh là là, c'est vilain. La balle qu'il est absolument inutile de conserver parce qu'elle a perdu l'élément de la vie divine. Elle a été utile un temps, la balle, elle est restée sur le grain pendant un temps, et puis ensuite le vent a soufflé et tiens, où elle est la balle? Qui c'est qui a pris la balle? Comprendre l'essentiel, c'est éprouver le besoin d'organiser notre existence autour du centre. Jésus, tu es le centre de ma vie. Ah, ils le chantent, mais ils ne le vivent pas. Comprendre l'essentiel, c'est éprouver le besoin d'organiser notre existence autour de ce centre, de Jésus, de l'Esprit, de l'étincelle de vie qui habite en chacun de nous. À moins que ce soit un cochon ou un paon ou qui vit au milieu de vous, je ne sais pas, moi. Jésus, lui, voyait que dans le scribe, il y avait une tanière et un nid. Ce centre, c'est le signe de notre filiation divine. Est-ce que c'est Jésus le centre de notre vie? Jésus, l'Esprit habite en nous, mais il ne rejette pas notre foie, nos yeux, nos trous de nez, nos intestins, nos pieds, notre anus, sous prétexte qu'ils ont des activités qui sont moins nobles que les siennes. Vrai ou faux? Vous avez un corps, Jésus vit dedans, et tout est bien à sa place. Quand l'Esprit, quand Jésus est le centre, Jésus s'en sert. Il se sert de tous les membres de son corps, même les plus vils. Ils sont encore entourés de beaucoup plus de soins, n'est-ce pas écrit? C'est lui qui dirige, c'est lui qui tient toutes choses. Mais dès qu'il manque ce centre dans une personne, cette force qui unifie, qui gouverne, alors notre centre devient une tanière pour renard, un nid pour vautour, une pocherie pour cochon. Dehors les veaux, les vaches et les cochons. C'est Camélia qui disait ça tout le temps. Peu de gens étudient comment Dieu a pensé les choses en mettant leur corps au service de leur intelligence, de leur cœur, de leur volonté. S'ils cherchaient à comprendre un petit peu, ils comprendraient qu'ils doivent s'inspirer de ce savoir pour la conduite de leur vie intérieure. Parce que ce corps, il est l'image du Dieu invisible qui vit en nous. Alors, s'ils étudiaient ça, ils mettraient tout de suite tout ce qui est matériel, éphémère et spirituel au service de l'éternel, de la vie. Le matériel et l'éphémère ont un rôle à jouer dans notre existence. Bien sûr, bien sûr. Mais pour que ce rôle soit bénéfique pour Dieu, pour les autres et pour nous, il faut faire participer ce matériel et cet éphémère aux activités de l'esprit, et pas le contraire. C'est pas parce que vous levez les mains au ciel, c'est pas parce que vous battez des paupières, et parce que vous avez des frissons dans le dos, que c'est la présence du Saint-Esprit. C'est votre chair. C'est pas parce que vous tombez par terre que c'est le Saint-Esprit, c'est votre chair. Vous avez affaire à la personne qui est en face de vous et qui vous fait tomber. C'est un mesmer. C'est un occultiste. C'est une personne qui a un pouvoir. Vous pouvez regarder, mais regardez dans les... Étudiez un peu la psychologie, la psychiatrie et toutes ces choses-là et vous allez apprendre. Vous allez voir. Et ces gens-là se sont infiltrés dans l'Église et tout le monde pense que c'est le Saint-Esprit et c'est faux. Ça se pratiquait dans les salons huppés au 19e siècle. Et c'était du spiritisme. C'était le diable qui rigolait derrière les tentures rouges des bordels. Et maintenant, c'est dans les églises. Et le diable rigole. Il suffit pas d'aller au séminaire. Il suffit pas d'aller au culte. Il suffit pas d'aller aux réunions de priotage. C'est un mot que j'ai inventé, ça. Cherchez-le pas dans le dictionnaire, mais je crois que bientôt il va y être parce que, avec les réformes, n'est-ce pas, qui vont avoir lieu, je vais écrire à la ministre, comment elle s'appelle, Kaklakem, Semsem Kamalakem, hein, un nom bien français, vous savez. Je vais lui écrire de mettre le mot priotage, hein, parce que des prières, il n'y en a plus beaucoup qui se font, il y a beaucoup de priotage, je trouve, hein. Même si sur le moment, dans ces séminaires ou dans ces réunions de priotage ou dans ces cultes, il peut y avoir l'impression qu'on a une réponse. C'est qu'une impression. Ce qui compte, c'est le bilan. C'est le bilan. Le bilan de ta vie. C'est quoi le bilan de ta vie? Voilà pourquoi, de temps en temps, il faut réviser nos choix, nos activités et faire le tri dans nos fréquentations. En se demandant, mais au fait, ça m'apporte quoi? Il m'apporte quoi tous ces gens? Tous ces gens qui tournent autour de moi, sont-ils pas en train de transformer le tabernacle divin que je suis en une véritable porcherie, en une espèce de tanière, en un nid de vautours? Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires à ma vie? Est-ce qu'ils sont vraiment nécessaires à mon ministère? Est-ce que je ne suis pas en train d'enterrer des morts vivants en m'acharnant, en voulant rester avec eux? Qu'est-ce que je peux faire pour être plus vivant? Marre des gens qui discutent de Dieu. Marre des gens qui dissèquent la Bible.
Oui, alors à mon avis, la trompette à bout filtre d'Apocalypse 53, verset 37,2, ça s'accorde avec 1 Thessaloniciens 7,9 qui va avec Jean Fauvel, chapitre 3, verset 15, et qui nous dit que les élus à bout filtre seront inévitablement enlevés en dessous des nuages, pas en dessus, hein, en dessous des nuages, et qu'ils seront aspirés miraculeusement.
Vous en connaissez des gens comme ça? Plein, il y en a plein. Vous allez sur Internet, il y en a plein. Si vous voulez, je vous donnerai des sites. On va en envoyer dans toutes les écoles, parce qu'ils ont besoin d'être instruits dans les écoles, pour qu'ils apprennent des vraies choses importantes, hein, dans les lycées. Mais pas seulement l'école nationale, aussi les lycées privés. Il faudrait envoyer à chaque directeur d'école privée tous ces sites avec toutes ces merveilles, n'est-ce pas, pour qu'ils se rendent compte que la véritable connaissance, elle est là, hein, à portée de leurs mains avec toutes ces âneries. Marre des vautours qui mangent de la charogne, c'est-à-dire qui mangent de la vieille nourriture, qui mange de la manne il y a 3 siècles en arrière. Marre des renards qui bousillent ma vigne. Marre des cochons qui salissent ma vie. Marre des paons qui se croient prophètes et qui ne sont en réalité que des médiums ou des schizophrènes qui entendent des voix, ou des imposteurs orgueilleux tout simplement, ou des minables qui prennent leurs idées pour les idées de Dieu. Marre des douteurs, des tièdes et des esprits de grenouilles visqueux. Marre du balai circulé. En fait, c'est ça que Jésus dit quand il dit le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête en toi. Il ne dit pas en toi, mais c'est ça que ça veut dire. Non, je ne les laisse plus s'installer en moi, ni dans mon cœur, ni dans ma tête, ni dans mes pensées. Il n'y a pas de place pour moi en eux. C'est eux les premiers qui l'ont dit. Tant mieux, il n'y a pas non plus en moi de place pour eux. Je n'aime pas les paons. Sauf un dans le parc, un qui se promène comme ça, c'est majestueux. Mais un vrai paon, hein, l'oiseau, la bestiole, pas le démon. Hein, un paon. J'aime pas les renards, ils puent de la gueule. J'aime pas les cochons, j'aime pas les vautours. Non. C'est des jolies créatures de Dieu, mais bon, voilà. Vous voulez un vautour? Quand vous allez en Afrique, vous allez au restaurant, ben vous avez des vautours à 2 mètres de vous, là. Hein. Hein, ceux qui sont venus avec moi, vous avez vu. C'est pas très rassurant, hein. Il y a sur la terre des gens merveilleux. Il y a des gens merveilleux qui ont compris la valeur, qui ont compris la beauté de la vie et qui la vivent. Alors, quoi de plus important que de s'associer à ceux-là? À celui qui cherche la vraie vie, la puissance de Dieu lui indique où sont ces êtres, où les trouver. Un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu cherche à intensifier la vie en lui-même, en elle-même. Il ne cherche pas simplement à briller. Il cherche à rendre pure sa vie, lumineuse, désintéressée et abondante, afin de la partager avec ceux qui en veulent. Laissons les morts enterrer leurs morts. Laissons les morts entre eux. Ils vivent ce qu'ils veulent. Et nous vivons la vie de Jésus-Christ avec ceux qui veulent la vivre aussi. Amen et Amen. Merci Seigneur Jésus d'ouvrir pour nous les Écritures afin que nous les comprenions et que cela nous console et que cela nous rassure et que nous sachions comment faire et que nous gardions toujours la tête hors de l'eau dans la tempête et que nous puissions reprendre pied pour marcher jusqu'à la barque où tu nous conduis. Merci Jésus, sois béni mon Sauveur. Amen. Amen. Voilà, ça vous a parlé ce matin? Gloire à Dieu, je suis content alors. Eh bien, que Dieu bénisse tous les auditeurs qui sont venus sur Révélation Bible. Passez une bonne semaine. Amen. À bientôt.